Alors, je dois vous dire qu'on l'avait attendu, hein. On l'avait vraiment attendu, et le fameux D-Day est finalement arrivé. Hier soir, les États-Unis ont lancé ce qu'ils ont eux-mêmes appelé, je cite, la plus grande offensive financière jamais organisée contre un adversaire dans l'histoire de l'humanité. Le plus grand de l'histoire et de l'humanité. Résultat, 2 heures plus tard, le pétrole a baissé de 2,5%. Le S&P 500 a perdu 0,25% et la moitié de Wall Street est allée se coucher plus tôt que prévu. Alors, soit on nous a menti sur la taille du débarquement, soit le marché a compris quelque chose que la Maison Blanche n'a pas encore compris. Ou alors, ils en ont juste rien à foutre parce que la paix, c'est pour bientôt. Mais pendant qu'on regardait ce cirque, il se passait quand même autre chose qui, à mon sens, est quand même beaucoup plus important. La société la plus puissante de la planète a aligné sa 7e séance de baisse consécutive à 40. 48 heures de publier son trimestre. Et je vous garde le meilleur pour la fin, hein. Un gamin de 26 ans, 30 milliards de dollars et la SEC qui débarque chez 4 grandes banques. Restez quand même parce que cette histoire, elle vaut quand même le détour. Bienvenue dans ce Morning Bull Live du mardi 25 août 2026. Je suis Thomas Veillet et au programme aujourd'hui, un débarquement qui n'a débarqué nulle part. Un ministre des Finances qui se substitue à la Fed et qui bricole les taux avec une pince à épiler. Une entreprise à 5 000 milliards qui n'arrive pas à suivre son propre secteur en termes de performance. Et la question que je me pose depuis samedi dernier, est-ce que jeudi matin, plus rien ne sera jamais pareil? C'est parti!
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
L'opération s'appelle Economic Outcast, opération paria si vous préférez. Et franchement, à ce stade, j'ai l'impression que la Maison Blanche emploie des scénaristes hollywoodiens à plein temps, rien que pour trouver des noms pour ces opérations. Ils doivent être trois dans un bureau avec un grand tableau blanc, et puis Economic Fury, ah non, on l'a déjà fait en avril, Liberation Day, c'est déjà pris, D-Day, ouais, D-Day, c'est bien, ça fait viril, et puis après, on enchaîne avec Economic Outcast pour la deuxième saison. Le contenu, c'est 5 secteurs qui sont sanctionnés, 60 et quelques entités et navires sur liste noire et surtout la vraie arme du truc, les sanctions secondaires. Ce qui veut dire, en français dans le texte, on ne tape plus sur l'Iran, on tape sur ceux qui parlent encore à l'Iran. C'est pas une grosse surprise, hein. Sur le papier, c'est l'arme atomique de la finance internationale. Sauf que, un journaliste a levé la main et a posé la question, la seule qui comptait vraiment hier, est-ce que vous êtes prêt à couper les grandes banques chinoises du système en dollars? Et Bessent a répondu en bégayant qu'il préférait la diplomatie discrète et qu'il ne citera pas de nom. La diplomatie discrète. Et ça, le jour où tu montes sur scène pour annoncer un débarquement de sanctions économiques. Et puis, il a lâché aussi la phrase de la soirée plus tard que je me repasse en boucle depuis hier. Pourquoi voudrais-je faire sauter le système financier mondial? Excellente question, monsieur le secrétaire au Trésor. C'est exactement la question qu'on se pose depuis 2 ans. Et puis alors, c'est un ancien diplomate américain qui a résumé la soirée mieux que n'importe quel stratège. Il a dit tout simplement, ce n'est pas un jour J. Un jour J, c'est quand on débarque sans que personne n'y s'y attende. Alors que là, on a prévenu tout le monde qu'on allait débarquer. On a donc passé une journée entière à commenter une bande-annonce avec l'intime conviction que l'épisode suivant sera encore un taco trade. Alors maintenant, pourquoi tout ça c'est important? C'est important parce que le sujet c'est pas tant l'Iran. L'Iran est sanctionné depuis 1979, ils ne savent même plus ce que ça fait de vivre sans sanctions. Non, le vrai sujet tout simplement, c'est Pékin. Parce que c'est la Chine qui achète la quasi-totalité du brut iranien. Sans la Chine, votre embargo, c'est du pipeau. Si vous ne bloquez pas la Chine, ça ne sert à rien. Sauf que Trump reçoit Xi Jinping à Washington fin septembre pour une visite qu'il n'a surtout pas envie d'annuler. Question de prestige. Donc, on doit faire de la diplomatie économique pour faire croire que c'est pas vraiment à la Chine qu'on s'en prend. Donc, on menace tout le monde, on ne nomme personne et on donne un calendrier défini dont on refuse de préciser la durée. C'est courageux, mais pas téméraire. Oui, effectivement, la trouille, ça se commande pas. Et le marché, lui, dans tout ça, il a lu ce texte assez rapidement, en 12 minutes, et il a répondu avec le franc-parler qu'on lui connaît, en disant « rien à foutre ». D'ailleurs, si on avait encore le moindre doute, le meilleur exemple, c'est le baril qui a perdu 2,5% alors que les sanctions économiques de Bessent sont censées déclencher des représailles iraniennes qui pourraient bloquer tout le Moyen-Orient en termes d'exportation de pétrole. C'est les Iraniens qui l'ont dit hier, j'ai pas inventé. Traduction, donc personne ne croit que ce D-Day sera un jour vraiment appliqué. Et historiquement, parier sur le fait que cette administration, l'administration Trump, ne fait pas ce qu'elle annonce, ça a été plutôt extrêmement rentable. On passe maintenant au chapitre de l'autre guerre, celle contre le Canada. Alors hier, c'était le deuxième round. La nouveauté, 50% de droits de douane sur toutes les voitures, les camions et toutes les pièces détachées canadiennes au 1er janvier 2027. Le premier ministre de l'Ontario a répliqué en menaçant de couper l'électricité qui part aux États-Unis et de bloquer les minéraux critiques. Trump l'a traité de clown et de larbin, et l'autre a répondu que c'était un tyran et un dictateur. On est donc là, les deux plus gros partenaires commerciaux de la planète, et un dialogue au ras des pâquerettes, et quand on voit le niveau, c'est pas super rassurant. Voilà, factuellement, il ne faut pas oublier quand même que toute cette histoire-là, on parle de 0,03% du PIB américain et de 0,4% de l'autre côté. Bah, c'est rien du tout, hein. Mais ceux qui vivent du transit entre les deux pays, eh ben, ils ont bien compris, hein. Les transporteurs routiers se sont fait démonter dans le marché. Ils ont perdu grosso modo 5%. Maintenant, on passe au taux d'intérêt. Alors hier, on a eu un léger soulagement. Le 10 ans américain est redescendu à 4,70, le 30 ans à 5,23. Pourquoi ? Eh bien parce que CNN a publié un article qui explique que le Trésor américain pourrait piocher dans son compte courant pour financer ses rachats d'obligations à long terme. Son compte courant, hein, sur lequel il y a, tenez-vous bien, 1000 milliards de dollars. Le gouvernement américain a 1000 milliards de cash qui dorment sur un compte courant et 40 000 milliards de dettes. C'est comme avoir 1000 francs sur son compte épargne, 2 millions d'hypothèques et se dire « je sais, je vais rembourser un petit bout, ça va impressionner mon banquier ». Et puis pendant que Bessent était devant la presse, eh bien la presse a posé des questions. Des questions justement sur ces fameux rachats de la dette. Et Bessent a répondu un poil agacé qu'il n'a pas encore racheté une seule obligation, pas une, et que la prochaine opération étant le 9 septembre, eh ben on en reparlera le 9 septembre. Une semaine plus tôt, il faisait les gros bras à la télé, et là, pouf, il n'y a plus personne. Alors pour mettre tout ça en perspective, regardons les vrais chiffres, parce que c'est là que ça devient quand même relativement drôle. Hein. Parce que pour raccourcir la maturité moyenne de la dette américaine d'un mois, un seul mois, il faudrait racheter environ 100 milliards de dollars d'obligations à 30 ans. Vous avez donc un trésor qui sort une pince à épiler pour évacuer le sable de la plage de Malibu. Et le plus fort, c'est que le marché applaudit à chaque fois qu'il montre la pince à épiler. Et pour la petite histoire, la dette fédérale est ce matin à 40 000 70 milliards de dollars. Ça fait 7 jours qu'on a passé la barre des 40 000 milliards et on a déjà emprunté 70 milliards de plus. Tout le monde s'en fout, je sais, mais je vous le dis quand même. Bon, finalement, le vrai sujet de la semaine, celui pour lequel vous êtes probablement venu ce matin, c'est bien évidemment Nvidia. Nvidia qui hier a perdu 2,91% et termine la journée à peu près 208$. C'est la 7e séance de baisse consécutive. Sa plus longue série baissière depuis septembre 2022, à 48 heures de la publication. Mais il y a un chiffre, un seul, qui devrait circuler beaucoup plus qu'il ne circule. Depuis le 1er janvier, Nvidia est en hausse de 12%. Et sur exactement la même période, le SOX, l'indice des semi-conducteurs, lui gagne 59%. Regardez bien, 12 contre 59. Dans l'absolu, 12% sur 8 mois, c'est correct. Mais pour ce secteur-là, en ce moment, 12%, c'est de la daube. Je dis pas que Nvidia, c'est de la daube. Je dis juste que c'est pas bon pour le secteur et c'est pas la bonne année pour Nvidia. Donc, vous avez la société la plus importante de la planète, 5000 milliards et des poussières, celle qui est le secteur des semi-conducteurs à elle toute seule, exactement comme Intel l'était il y a un quart de siècle, et elle fait 5 fois moins bien que son propre secteur. Alors, c'est pas un détail technique hein, pour ceux qui regardent des candlestick toute la journée. C'est un changement de régime. L'argent est sorti des caisses du roi pour aller chez les fournisseurs du roi. Et ça n'arrive jamais par hasard. Ça arrive quand le marché commence tout doucement, sans le dire à voix haute, à se demander si la marge du roi est vraiment éternelle. Et si le roi lui-même est éternel. Alors pour les attentes de demain, je vais rien vous dire maintenant, on va pas perdre de temps, mais pour ceux qui veulent savoir, je vous ai préparé une vidéo qui sortira cette nuit à 1h du matin. Et là-dedans, je vous dirai tout. Notez 1h du matin sur la chaîne Swissquote en français. Et puis il y a aussi une cheat sheet dispo sur mon site morningbull.ch. Et pendant que tout le monde a track, les experts, eux, continuent de travailler. Hier, Cantor Fitzgerald, grande maison, vraie maison, client institutionnel, a publié une note dont le titre restera dans l'histoire de la profession. Et le titre de cette note, c'est « Il est temps de fermer les yeux ». Oui, fermer les yeux et acheter Nvidia. massivement. Objectif 350$, soit 67% plus haut. J'ai relu trois fois pour être sûr. Donc si vous fermez les yeux et que vous achetez, ça va bien se passer. C'est écrit noir sur blanc, c'est envoyé à des gérants professionnels et institutionnels et c'est facturé à ces mêmes gérants. Nvidia est donc devenue une religion pour certains et c'est pas forcément un compliment. Et puis alors, pendant que tout le monde a les yeux braqués sur Jensen Huang qui parlera demain soir, c'est en dessous que ça craque un petit peu. Samsung s'est fait défenestrer hier, 8,7% de baisse, et il en repère 3,5 ce matin à Séoul. Pourquoi ? Bah toujours à cause de son plan de retour aux actionnaires qui n'a pas plu. SK Hynix perd 4%, 4,5%, avec en prime son syndicat qui vient de rejeter l'accord salarial. Oui, parce que apparemment il faut payer les employés. Mais où va-t-on ? Où va-t-on ? Autrement, Micron a perdu quasiment 6% hier, SanDisk plus de 6%, et le Kospi coréen, ce matin, lâchait de 2% encore. Et alors là, il faut que je vous raconte quelque chose, parce que je m'en souviens comme si c'était hier. Mais bon, en même temps, c'était hier. Hier matin, dans cette même émission, je vous expliquais que la mémoire était devenue le vrai goulot d'étranglement d'intelligence artificielle, que le pouvoir avait changé de main. Et que le premier contributeur à la croissance des bénéfices du S&P 500 ce dernier trimestre, eh bien, c'était pas Nvidia, c'était Micron. 24 heures plus tard, les mêmes valeurs se prennent la pelle à neige en pleine gueule. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Le narratif ? Non, pas le narratif. L'effet industriel ? Bah non plus, la pénurie est toujours là, visiblement. Les usines tournent toujours à fond. Ce qui a changé, c'est que des gens ont décidé d'encaisser un peu de cash avant mercredi soir, juste au cas où. Et ça résume assez bien l'état du marché. Il ne sait plus s'il achète une histoire ou s'il vend des fondamentaux. Alors il fait les deux dans la même semaine. Et on appelle ça de la gestion active. Maintenant, parlons un petit peu d'autre chose. Un statisticien américain a compilé 9 indicateurs de valorisation, choisis parce que chacun a un historique statistiquement solide pour prévoir la performance du S&P 500 sur les 10 prochaines années. Sur ces 9 indicateurs, 7 annoncent que l'indice fera moins bien que l'inflation sur la prochaine décennie. Bon, en même temps, à 3% d'inflation par année, c'est quand même pas mal sur 10 ans. Bref, un huitième de ces indicateurs table sur zéro, pas de performance. Et un seul est positif. Moyenne des 9, moins 3,2% par année. Bon. En termes réels, pendant 10 ans, les jeux sont faits, rien ne va plus. Et le meilleur n'est pas là. L'indicateur qui a le meilleur historique de tous, ce n'est ni le PER, ni le prix sur les ventes, et ni la capitalisation rapportée au PIB. C'est la part des actions dans le patrimoine du ménage américain moyen. Et aujourd'hui, il est tout proche de son record absolu. La logique est donc simple. Et un peu cruel quand même. Le grand public arrive toujours en dernier. Donc, il est investi à fond tout près des sommets. Et il viendra vous jurer qu'on ne l'y reprendra plus, jamais, après 80% de correction. Alors, on va me dire, et on aura raison, que ce truc crie au loup depuis 3 ans et que le marché est monté quand même. Et c'est rigoureusement exact. Mais réfléchissez à ce que ça implique. L'argument des optimistes revient à dire que les repères historiques ne fonctionnent plus. Et si les repères historiques ne fonctionnent plus, on n'est pas dans un nouveau paradigme. On est dans un endroit sans carte, sans GPS, où nos chances d'être justes sont celles d'une bonne partie de pile ou face. De là à dire que c'est plus de l'investissement mais du casino, il y a une frontière que je ne franchirai jamais. Parce qu'au fond, la question de la semaine est là. Est-ce que quelqu'un tient encore le volant dans l'économie américaine ? Le Trésor bricole l'étau long et se fait effacer en 3 jours. La Fed se tait jusqu'à vendredi. La Maison-Blanche ouvre un front commercial avec son voisin lundi, un front économique avec la Chine le mardi, et fait presque oublier qu'elle voulait finir sa guerre avec l'Iran. Le marché attend qu'un vendeur de cartes graphiques lui dise mercredi soir si le monde continue tel qu'il était. Ceci dit, pour que personne ne dise que je suis toujours négatif, hier on notera quand même que 8 secteurs sur 11 étaient en hausse et que Visa et Mastercard ont clôturé sur les plus hauts de tous les temps, tout comme Coca-Cola. Le consommateur américain n'est donc pas mort, il est juste devenu regardant. Par contre, vous connaissez la raison pour laquelle on achète les cartes de crédit depuis quelques temps. Eh ben, les experts à Wall Street, ils estiment que si les gens bourraient les dossiers avec du Visa ou du Mastercard, c'est à cause de l'inflation. Oui, l'inflation est excellente pour Visa et Mastercard, puisqu'ils prélèvent un pourcentage sur chaque transaction. Plus c'est cher, plus ils encaissent. Vous avez donc deux sociétés dont le cours de bourse est mécaniquement une prime sur votre appauvrissement. Le gallon d'essence à 4,10 contre 3,15 il y a un an, c'est pas grave, ça leur fait plus de pognon. Bon, après, ils riront un peu moins quand le consommateur ne pourra plus rembourser sa dette. Mais ça, c'est pour plus tard. Et puis alors maintenant, l'histoire que je vous ai promise au début, il y a un fonds spéculatif qui s'appelle Situational Awareness, fondé en 2024 par un ancien chercheur d'OpenAI. Vous vous souvenez? J'avais fait une vidéo là-dessus. Ce fonds a fait plus de 1000% de performance depuis son lancement, 30 milliards de dollars sous gestion, plus quelques dizaines de milliards empruntés par-dessus pour amplifier le pari et améliorer la performance. Et le pari, c'était les puces mémoire. Fin juin, il détenait 5,7 milliards de SanDisk et 5,6 milliards de Micron. À eux deux, 56% de tout son portefeuille américain. Sur deux lignes. Puis juillet est arrivé. SanDisk, moins 47%, Micron, moins 29%. Appel de marge, liquidation forcée, portefeuille bradé à Citadel avec 10% de décote, 67% de la valeur partie en fumée en un mois. Citadel a débouclé plus de 80% du risque en 3 semaines et signé son meilleur mois depuis 2022. Comme quoi, le malheur des uns, vous connaissez la suite. Mais il reste un actif à Situational Awareness, sa participation privée dans Anthropic qui vise une entrée en bourse à 2000 milliards ou à 3000 milliards, ça dépend les jours. Mais l'histoire s'arrête pas là. La SEC vient d'envoyer des assignations à comparaître à 4 grandes banques américaines. Pas pour embêter le gamin, mais pour comprendre qui savait quoi et surtout qui lui a prêté combien et dans quelles conditions. Les banques vont donc passer à la moulinette pour voir si, encore une fois, on peut leur reprocher un truc sur le principe du « greed is good ». Donc résumons, on a un type de 26 ans qui emprunte des dizaines de milliards à Wall Street, qui met 56% de son portefeuille sur deux titres, qui vont se faire laminer, qui perd tout en un mois, et il lui reste dans un tiroir une participation qui pourrait valoir plus que ce qu'il a cramé. La prochaine fois qu'un conseiller vous explique gravement que votre profil de risque doit rester équilibré, souvenez-vous quand même qu'un étage au-dessus, il y a des gens, des professionnels, qui jouent vos capitaux à pile ou face, et tout ça parce qu'ils ont fini l'université beaucoup plus tôt. Ça a tellement bien fonctionné le coup de l'université finie beaucoup plus tôt pour le LTCM. Allez, on résume la journée. On nous a promis le plus grand débarquement financier de l'histoire de l'humanité et le pétrole a baissé. Le trésor américain essaye de plafonner ses taux longs avec une pince à épiler pendant que la dette avance de 10 milliards par jour. La société la plus rentable du monde vient d'aligner 7 séances de baisse à 2 jours de ses résultats et 7 indicateurs de valorisation sur 9 nous explique que la prochaine décennie sera pourrie. Demain soir, on a Nvidia. J'ai déjà mis en ligne sur morningbull.ch la cheat sheet complète. Les chiffres à surveiller, les seuils qui comptent, ce qui fera vraiment bouger le titre. Le lien est en description. Et juste après la publication, je serai là, au milieu de la nuit, pour vous parler. Je vous rappelle que la vidéo sur ce qu'il faut attendre demain sera publiée à 1h du matin cette nuit. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, commentez, histoire que l'algo de YouTube s'excite et me remarque. D'ici là, une dernière chose. Hier, il y a un dirigeant de chez Goldman Sachs qui a prévenu que si les banquiers laissaient l'intelligence artificielle penser à leur place, ils finiraient par perdre la capacité de raisonner par eux-mêmes. Bon, c'est bien. Ça veut dire qu'ils raisonnent. C'est déjà pas mal. Et quand ces équipes ont poussé leur propre modèle dans ces retranchements pour vérifier s'ils disaient vrai, la machine a répondu, je cite, « Au fond, je suis meilleur pour avoir l'air minutieux que pour être minutieux ». Pas sûr que ce soit hyper rassurant pour l'avenir de la finance, mais je m'étalerai pas là-dessus, parce que sinon on va encore dire que je suis bériche dans les commentaires. Allez, belle journée à tous. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.